Écho d'économie.
Le Premier ministre instruit la mise sur pied d'un monitoring de suivi de la crise de l'Ukraine sur l'économie congolaise. Ceci ressort de la réunion du comité de conjoncture économique de ce mercredi. Le comité renseigne que malgré la crise qui a occasionné la hausse des prix du pétrole, l'économie congolaise demeure stable sur différents segments. La loi sur la sous-traitance du secteur privé est une opportunité pour les Congolais, même si son application souffre encore de quelques écueils. Le président de l'autorité de régulation de la sous-traitance est l'invité de l'économie sur Radio Capi. Merci de votre écoute. Bienvenue à toutes et à tous. La mise en place d'un monitoring de suivi de la crise de l'Ukraine sur l'économie congolaise, c'est l'un des points au menu mercredi de la réunion du comité de conjoncture économique autour du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. L'examen de la conjoncture économique nationale et internationale pour la période du 9 au 28 février renseigne que les opérations militaires en Ukraine ont eu un impact négatif à l'international sur les prix des produits énergétiques dont le pétrole, les cours de certains métaux précieux et sur les marchés financiers dont les principales places boursières ont clôturé en négatif à la fin du mois de février. Le ministre des Finances, qui a fait le compte rendu de la réunion devant la presse, parle d'une conjoncture sous contrôle sur le plan national malgré la hausse des prix des produits énergétiques. Le marché des change, celui des biens et services et le marché monétaire restent stables. Cependant, le comité reconnaît que l'impact de la hausse du prix du pétrole est de nature à avoir des conséquences négatives sur l'économie de la RDC qui importe l'intégralité de son pétrole. Toutefois, renseigne le comité, des mesures urgentes sont prises quant à ce. Le comité de conjoncture se dit également confiant malgré la situation de crise en Ukraine. Il espère que les cours des matières premières et autres produits miniers de la RDC vont bénéficier d'une bonne tenue. Nous vous le disons hier, la RDC, à travers le ministre des Finances Nicolas Kazadi, a signé mercredi avec la Banque africaine de développement 3 contrats de financement pour un total de 196 millions de dollars américains. Ce financement est constitué d'une partie de prêts et l'autre de dons. Avec ces financements de la BAD, la RDC entend lancer 3 projets. Le premier projet pour l'aménagement de la route Goma-Bukavu, financé à hauteur de 98 millions de dollars américains. Le deuxième porte sur le renforcement des infrastructures socio-économiques dans la région du centre. Ceci concerne le projet prise dans sa phase 2 pour 70 millions de dollars américains et le dernier financement est alloué au projet d'appui à la relance de l'économie congolaise par un soutien au secteur économique et financier. Il est financé par la partie dons à hauteur de 28 millions de dollars américains. Écoutons le ministre des Finances Nicolas Kazadi donner ici les avantages de chacun de ces projets.
Je note que le premier projet relatif à l'aménagement de la route Bukavu-Goma, dont le coût total est de 98 millions de dollars, contribuera à réduire le temps de parcours d'un camion poids lourd de 4 heures à 1 heure et demie. Par ailleurs, il contribuera à réduire le temps parcouru pour l'approvisionnement en eau potable de 2 heures à 20 minutes et celui pour atteindre un centre de santé de 5 heures à 20 minutes. Concernant le deuxième accord, il s'agit du financement additionnel ou encore une seconde phase du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre. Le montant de ce financement est de 70 millions de dollars. Il permettra de toucher 10 provinces, 41 agglomérations et au total plus de 870 000 personnes. S'agissant du troisième projet, il s'agit d'un projet d'appui à la relance économique congolaise financé par un don de 20 millions d'unités de compte. Il vise à promouvoir la mise en œuvre des réformes économiques engagées par le gouvernement pour sortir de la crise Covid-19 et assurer la relance économique.
Les jeunes entrepreneurs du Sud-Kivu plaident pour des allègements fiscaux en leur faveur. Ils l'ont dit au cours d'une matinée d'information et de sensibilisation sur l'entrepreneuriat et la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé. Une activité organisée lundi par l'ANADEC sous la coupole du ministre de l'Entrepreneuriat et de Petites et Moyennes Entreprises et Artisanat. Le ministre Eustache Mouanzi a rassuré que 2 lois seront bientôt adoptées pour permettre d'alléger un moment le poids fiscal aux jeunes entrepreneurs. Il le dit au micro de Cynthia Bachizi.
Vous aviez dit que la Banque mondiale va financer à hauteur de 300 millions des projets d'accompagnement des jeunes. Est-ce qu'on peut en savoir plus ?
Bon, nous pourrons en savoir plus d'ici la fin de ce semestre, parce que la Banque mondiale se réunit en conseil d'administration pour adopter le budget de partenariat qu'elle a avec ses partenaires, donc avec la République démocratique du Congo. Mais les pourparlers que nous avons sont tels que le financement, après le projet pilote de 100 millions de dollars qui est fini, les pourparlers que nous avons sont tels que nous pourrons avoir les triples de 100 millions de dollars pour le projet d'accompagnement de PME dans notre pays.
Donc c'est ici question d'inviter tous les jeunes qui ont une fibre entrepreneuriale à se tenir prêts.
Tout à fait, j'invite tous les membres de l'écosystème, non seulement les jeunes, mais toutes les PME, tout l'écosystème entrepreneurial de la province, tout autant que de toute la République, d'affûter effectivement les armes le moment venu dès que ces projets, dès que le financement se confirme, pour savoir de quelle manière on sait être éligible.
Est-ce que vous pouvez ici nous rappeler l'importance de ce financement de la Banque mondiale par rapport à des projets des jeunes?
Il y a deux projets de loi. La loi sur l'entrepreneuriat et le start-up et le projet de loi sur l'artisanat. Ces deux projets de loi ont déjà été débattus et adoptés en commission gouvernementale. Ils les seront discutés et adoptés dans les 2 semaines maximum, je le pense, au niveau des conseils de ministres. Et par la suite, nous les transmettons au Parlement et nous espérons qu'à la session de mars prochain, ces deux lois vont être débattues et discutées au niveau du Parlement. Et il y a des dispositions à l'intérieur de ces deux lois qui vont disposer qu'il y ait un moratoire de 1 année, 2 ans, 3 ans, selon le cas, pour que les jeunes entreprises qui commencent soient effectivement défiscalisées pour leur permettre de s'asseoir avant de payer leurs taxes.
Écho d'économie.
Nous restons à Bukavu pour parler de la loi sur la sous-traitance dans le secteur privé qui serait une opportunité pour les entrepreneurs congolais en ce sens que la dite loi réserve l'exclusivité des activités de la sous-traitance aux entreprises à capitaux congolais majoritairement. C'est Kalej Kant, directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé qui le dit. Cynthia Bassizi l'a rencontré à la matinée d'information consacrée à cette loi à Bukavu.
Monsieur Kalej Kando, bonjour.
Bonjour, madame.
De manière résumée, hein, que prévoit la loi pour la sous-traitance dans le secteur privé?
La loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé prévoit que les activités de sous-traitance sont rendues obligatoires et sont réservées aux entreprises à capitaux congolais en exclusivité, c'est-à-dire les entreprises dans lesquelles des personnes physiques de nationalité congolaise détiennent un minimum de 51%.
Alors pourquoi son application pose problème aujourd'hui?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a eu un moratoire qui a été accordé à la loi elle-même, qui faisait que la loi ne pouvait être mise en application que 12 mois après sa promulgation. Et au bout de 12 mois, il n'existait pas encore une structure dédiée à sa mise en application. C'est seulement en mai 2018 que l'autorité de régulation a été créée et ses animateurs ne sont entrés en fonction qu'en janvier 2019. Et par la suite, donc, il fallait l'organiser, il fallait la structurer et il fallait commencer à travailler. Dès que le travail a commencé, la première des choses, c'était de mener une campagne de vulgarisation et de sensibilisation des différentes parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises principales et les sous-traitants, pour qu'ils s'approprient de la loi, que les entreprises principales acceptent la loi, y adhèrent et s'engagent à la respecter, à la mettre en application. Et les sous-traitants aussi s'en approprient, la comprennent pour pouvoir saisir les opportunités qu'elle offre. C'est une grande activité, vous voyez l'étendue du territoire, ça ne peut pas se faire en un jour. Ça a pris beaucoup de temps pour vulgariser et sensibiliser la loi. Et après seulement, il fallait vérifier sa mise en application par les contrôles. Et on y va progressivement.
Est-ce qu'il y a des conséquences liées à cette lenteur dans la mise en application de cette loi?
Je ne dirais pas qu'il y a une lenteur.
Le fait qu'elle soit diversement appréciée.
Ou appliquée ou appréciée, ça pose des problèmes. Et les raisons sont diverses. Il y en a qui estiment qu'il y a des aspects de cette loi qui ne sont pas assez clairs. Et nous-mêmes qui sommes amenés à l'appliquer, nous estimons qu'elle ne contient pas suffisamment d'éléments coercitifs pour pouvoir contraindre ceux à qui elle s'adresse de pouvoir l'appliquer.
Alors, est-ce qu'il y a certaines filières qui sont plus en avant ou pas du tout par rapport à l'application de cette loi?
Il faut dire que le secteur minier était déjà mieux structuré et nous l'avons utilisé comme secteur pilote pour pouvoir tester l'application de la loi. Et c'est donc par ce secteur-là que nous avons abordé la mise en application, par la vulgarisation et la sensibilisation, mais aussi par des contrôles. Et La machine a bien démarré là-bas, elle est bien où il est. Et nous avons juste reproduit ce que nous avons appliqué là-bas à d'autres secteurs tels que les hydrocarbures, les télécommunications, le bâtiment, le transport, etc.
Merci à vous, Kalej Kant et Cynthia Bachizi. Surtout, merci à vous, chers auditeurs. C'est la fin de Écho d'économie que je vous convie à réécouter au plaisir sur www.radioocapi.net.